pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Voilà un reportage que devraient écouter les représentants des gouvernements européens. Cette semaine encore, car c'est la troisième fois, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la prolongation ou non de la commercialisation du glyphosate en Europe. Le glyphosate est l'un des composants de l'herbicide Roundup de Monsanto. Il représente 25% du marché mondial des pesticides. En Argentine, 200 millions de litres de glyphosate sont dispersés chaque année, surtout dans les cultures de soja transgénique cultivé sur 70% des terres agricoles du pays. Premier exportateur mondial d'huile et de farine de soja, troisième producteur de graines, c'est donc l'une des principales richesses du pays. Mais à quel prix ? C'est un reportage de Marine de la Moissonnière.
Ici, on est dans mon petit paradis. On est chez moi, dans mon exploitation agricole. Je vis ici avec ma famille. Mon exploitation fait 1300 hectares et je loue des terres en plus. Je m'appelle Gabriel de Redemaker, agriculteur, père de famille et ingénieur agronome.
On se trouve dans la propriété de Gabriel de Redemaker, à environ 100 km de la ville de Córdoba. Pour venir jusqu'ici, on a fait plusieurs kilomètres en voiture, des kilomètres au cours desquels on a vu des champs de soja de tous les côtés, du soja à perte de vue.
Le soja transgénique a fait son apparition en 1996, quand le président de l'époque, Carlos Menem, a autorisé les cultures d'OGM. En fait, ici, avant, on élevait du bétail et on cultivait du sorgho pour nourrir les bêtes. Quand le soja est apparu, comme c'était facile à cultiver, très vite, il y a eu un boom. Le soja a pris le dessus sur toutes les autres cultures. Le soja occupe plus de 20 millions d'hectares, soit environ 70% des terres cultivées en Argentine.
On dit que le soja, c'est l'or vert de l'Argentine. Que veut dire cette expression ?
Oui, pendant un temps, les cours mondiaux du soja ont été très hauts. Ils ont même dépassé les 600 dollars la tonne. Grâce au soja, le pays a pu s'en sortir après la crise qui a éclaté fin 2001. Ça a été une crise économique et sociale extrêmement dure.
Et à cette
époque, le soja et le secteur agricole en général ont été une source de revenus très importante pour le pays. Encore aujourd'hui, le soja et ses dérivés constituent la première source de rentrée de dollars dans le pays. Le secteur agricole, dans son ensemble, est le principal moteur de l'économie argentine. Si on y ajoute le secteur agro-industriel, c'est même le principal fournisseur d'emplois du pays devant l'industrie automobile.
Quels sont les avantages de cultiver du soja transgénique?
Nosotros estamos particularmente en una zona de suelos.
Dans cette zone où les sols sont fragiles et s'érodent facilement, le soja transgénique, qui est donc résistant aux herbicides, a permis d'introduire la méthode du semis direct, c'est-à-dire que vous semez sans labourer, directement sur ce qui reste de la culture précédente. Ça a été un avantage majeur pour nous, car nous avons pu stabiliser la détérioration des sols dans un premier temps, et ensuite améliorer leur qualité en leur ajoutant des fertilisants et des engrais, et surtout en ne les labourant pas.
Est-ce que c'est plus facile à cultiver ?
Au début, oui, c'était plus facile grâce aux produits phytosanitaires. Il y a toujours eu beaucoup de mauvaises herbes et d'insectes ici dans le passé. Le soja transgénique nous a permis de faire baisser leur nombre et d'utiliser les produits phytosanitaires de manière plus efficace et de gagner en compétitivité. Mais aujourd'hui, à cause de l'usage répétitif et excessif du même produit phytosanitaire, des insectes et des mauvaises herbes sont devenus résistants aux pesticides. Vous voyez ces petits plumeaux qui dépassent là ? Eh bien, ce sont des amarantes hybrides résistantes au glyphosate. Ça m'oblige à faire tourner les cultures et à utiliser d'autres produits chimiques.
Comment vous savez quels produits vous devez utiliser et en quelle quantité ?
Je pratique l'automédication. Je suis ingénieur agronome.
De la pratique professionnelle, tiene que assistir.
Pour actualiser mes connaissances théoriques et celles acquises sur le terrain, j'assiste à des cours de perfectionnement. C'est moi qui décide de suivre des formations ou pas.
Obliga
Le gouvernement nous oblige, entre guillemets. Enfin, c'est plutôt qu'il conditionne le fait de pouvoir prescrire des produits et des traitements à certaines obligations légales. C'est pareil pour les médecins et les vétérinaires.
On est actuellement dans le jardin de votre propriété. À même pas 10 mètres de nous se trouve un champ de soja. Ça se passe comment quand vous devez épandre des produits phytosanitaires ?
Tout dépend des conditions climatiques. C'est pour ça que c'est très important qu'un expert soit présent au moment de l'épandage. Il faut aussi que les produits aient été prescrits correctement et que la machine utilisée soit aux normes. Les tests pour mesurer la dérive des produits phytosanitaires sont très encourageants, parce que même en ne respectant pas les limites de vitesse du vent recommandées, la dérive serait inférieure à 10 mètres. Je vis ici avec mes enfants. Faire les choses bien, c'est une préoccupation permanente pour moi, pour ma santé, mais surtout pour la leur.
Et vous n'avez pas peur pour vos enfants ?
Si on fait bien les choses, il n'y a aucun risque. Ça fait 25 ans, non, 30, déjà 30 ans que je vis ici. Et à part ma calvitie avancée, je n'ai jamais eu aucun problème de santé lié à l'utilisation de produits phytosanitaires. C'est comme pour les médicaments. S'ils sont correctement prescrits, eh bien, utilisés sous la supervision d'un expert, alors il n'y a aucune raison qu'il y ait des problèmes.
Vous êtes donc d'accord avec la ligne de défense de Monsanto qui dit toujours que s'il y a des problèmes, c'est parce que les agriculteurs utilisent mal leurs produits ?
Ça peut être aussi parce que les contrôles sanitaires, avant que le produit ne soit mis sur le marché, n'ont pas été faits. Nous, les agriculteurs, nous n'avons pas à assumer la responsabilité des laboratoires, des entreprises ou des organismes publics de contrôle. Notre responsabilité à nous, c'est de respecter scrupuleusement toutes les normes de sécurité quand on utilise ces produits. Mais ce qui se passe en amont, ce n'est pas de notre ressort.
Après cette escapade dans la campagne, nous voilà maintenant à Cordoba, la capitale de cette province agricole. On a rendez-vous dans le centre-ville, à la maternité de l'hôpital universitaire de Cordoba, avec le docteur Medardo Avila Vasquez. Il est pédiatre, sa spécialité c'est la néonatologie. Il soigne régulièrement des enfants, des bébés malades, victimes selon lui des pesticides.
Je travaille dans l'unité de thérapie intensive pour les nouveau-nés. Nous prenons en charge les bébés qui naissent dans les villages où il n'y a pas d'équipement aussi perfectionné qu'ici. Ce qu'on constate depuis une dizaine d'années, c'est une hausse du nombre de patients venant des zones rurales où l'on sème du soja transgénique et où l'on pulvérise massivement des pesticides. Ces enfants souffrent surtout de malformations congénitales, de problèmes neurologiques ou cardiaques, d'anomalies chromosomiques. Les mères de ces bébés ne sont pas spécialement âgées. Au contraire même, en général, il s'agit de couples jeunes d'environ 25 ans, en bonne santé et sans antécédents de malformations. En Argentine, moins de 2% des enfants naissent avec une anomalie congénitale. Dans les villages où nous avons pu effectuer des mesures, ce taux est 2 à 3 fois plus élevé.
Mais ces malformations, elles pourraient être produites par d'autres maladies. Comment être sûr que ce sont les pesticides qui sont en cause ?
Ce problème est apparu quand on a commencé à cultiver du soja transgénique et à utiliser des agrotoxiques. Avant, la population rurale en Argentine était plutôt saine et jouissait d'un bon niveau de vie. Les indicateurs de santé étaient très bons. Mais au cours des 10-15 dernières années, tout cela a changé. Parallèlement à l'augmentation du nombre de cas de malformations, le type de maladie dont souffrent les ruraux s'est modifié. On a constaté ce phénomène dans les villages situés à des kilomètres les uns des autres. Leur seul point commun, ce sont des épandages de glyphosate sur les champs de soja transgénique. Par ailleurs, des études en laboratoire ont prouvé que les produits comme le glyphosate rompent la chaîne de l'ADN et altèrent le message génétique transmis aux cellules. À cela s'ajoutent les données épidémiologiques qu'on a récoltées. L'exposition au glyphosate n'est sans doute pas le seul facteur explicatif, mais c'est en tout cas le principal.
Quand est-ce que vous avez fait le lien et comment est-ce qu'il y a un cas en particulier qui vous a fait ouvrir les yeux, qui vous a fait prendre conscience que c'était ça ?
J'ai découvert ce problème en 2007. J'étais alors sous-secrétaire à la santé à la mairie de Córdoba. Le groupe des maires d'Ituzaingó, qui est un quartier excentré de Córdoba, entouré de champs, est venu nous voir pour nous alerter sur le grand nombre de cas de cancer et de malformations. Le cancer, c'est ce qui inquiète le plus les populations des zones touchées. Bien sûr, chacun d'entre nous risque un jour d'avoir un cancer. Sur une population de 100 000 personnes, 200 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Mais dans les zones d'épandage, ce sont 400 à 700 cas de plus par an. Le risque est 2 à 3 fois plus important.
Aujourd'hui, vous êtes encore plus inquiet parce que la menace s'étend. C'est plus seulement les villages paysans qui sont victimes d'épandage, qui sont donc menacés par ces maladies, ces malformations. Maintenant, les villes aussi sont concernées.
Oui. Malheureusement, les agriculteurs utilisent de plus en plus d'agrotoxiques parce que les mauvaises herbes deviennent résistantes. Avant, on avait besoin de 3 litres de glyphosate par hectare. 10 ans plus tard, c'est 12 litres. La conséquence, c'est qu'on trouve de plus en plus de résidus de pesticides dans les aliments. On en a aussi trouvé dans le coton, les compresses de gaz et les bandages que l'on utilise dans les hôpitaux, dans les tampons hygiéniques, dans l'eau de pluie. C'est un véritable sujet de préoccupation sur lequel on travaille. On est en train de mener de nouvelles recherches. Mais c'est une lutte difficile car le business du soja et des pesticides représente des millions de dollars en Argentine. Et les différents gouvernements le soutiennent. Du coup, les chercheurs, les médecins et les citoyens se sentent un peu seuls.
Vous avez même reçu des menaces, vous avez même failli perdre votre poste à l'université de Córdoba.
Sí, el año pasado cuando publicamos los datos de una investigación que hicimos en un pueblo.
Oui, l'an dernier quand on a publié les résultats d'une étude très approfondie qu'on a réalisée dans un village avec le soutien de la mairie. Les dirigeants de la faculté de médecine et d'agronomie ont essayé de lancer des procédures disciplinaires et de me renvoyer. Bon, ils n'ont pas réussi. Mais en faisant cela, ils cherchent à décourager les jeunes chercheurs qui voudraient étudier ces questions et défendre le droit à la santé.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
No quiero estar preso de tu intervención. Prefiero vivir un día más con amor y no ser cómplice de tu destrucción. ¡Ay, no, no, no! ¡Monsanto, no! ¡Monsanto, no! ¡Ay, no, no, no!
On est à Ituzaingó Anexo, ce quartier de Córdoba dont nous parlait le docteur Medardo Avila Vasquez. C'est un quartier excentré. On est à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de Córdoba, qui est la deuxième ville d'Argentine. Et on se croirait vraiment à la campagne. C'est très vert, les maisons sont basses. Il y a une rue principale où se trouvent les commerces. Il y a une pharmacie, là-bas des épiceries, une boucherie un peu plus loin. Et de chaque côté de cette artère principale, eh bien, il y a de petites rues tranquilles. Alors c'est dans ce quartier qu'est né le mouvement anti-Monsanto, à l'origine de cette mobilisation des femmes inquiètes de voir les enfants du quartier tomber malades.
Monsanto.
Je m'appelle Norma Herrera, je fais partie du groupe des maires d'Ituzaingó. J'ai 51 ans et je suis employée de maison.
Alors au fond de la cour de la maison, il y a une petite pièce qui est en fait le siège de l'association des maires d'Ituzaingó. Et il y a au mur une carte du quartier.
C'est le premier état des lieux qu'on a fait en 2002. Comme vous pouvez le voir, on est parti de mon pâté de maison. Il y avait un cas de leucémie ici, un chez moi et un autre là. Donc 3 cas de leucémie au total, plus un cas d'anémie hémolytique. Ce sont les 4 cas qui ont éveillé les soupçons dans le quartier.
Sur cette carte, vous avez donc matérialisé par des points de couleurs différentes les différentes maladies. Rouge, le cancer. En vert, les 4 purpura, orange, les leucémies, bleu, le lupus, lymphome en jaune, malformation en rose, fausse couche en verre, et la liste est encore très longue, suicide, Parkinson, diabète.
Oui, ce sont toutes les maladies provoquées par les pesticides qu'on nous a déversées dessus pendant des années. Les petits points blancs que vous voyez, ce sont les gens qui sont morts. L'an dernier, on a complété le relevé. Vous voyez comment la situation a continué de s'aggraver ? On était trois dans mon pâté de maison, et maintenant, vous voyez ? C'est incroyable. Le nombre de malades a augmenté et pourtant il n'y a plus d'épandage depuis 2008. Regardez ce que ça fait de vivre sur des terres polluées. Les agrotoxiques continuent de faire des victimes. C'est incroyable le nombre de cas. Si on part de ce coin de rue-là, dans cette maison, il y a Marcella qui a perdu son bébé, qui est née avec une malformation. Dans la maison voisine, une femme est morte de cancer et cinq enfants ont des pesticides dans le sang. À côté, un cas de malformation et un lupus. Ensuite, une maison sans cas. Puis encore à côté, un homme a succombé au cancer. Pareil dans la maison suivante où il y a en plus un cas de leucémie. La maison d'après, rien. La suivante, c'est la mienne. Ma fille a eu une leucémie et mes deux autres enfants ont des pesticides dans le sang. Et dans l'une des deux dernières maisons, une femme a été emportée par un cancer fulgurant en 6 mois.
Je suis Marcela Ferreira, du groupe des mères du Barrio Tusangoanex.
Je m'appelle Marcela Ferreira et j'appartiens au groupe des mères d'Ituzaingó. J'ai 43 ans, je vis à Córdoba, dans le quartier d'Ituzaingó-Anexo, depuis 1983.
Vous vivez où dans le quartier ?
Vous voyez où étaient les champs de soja ? Ben, 200 mètres. Quand j'ai rejoint la mobilisation, personne de ma famille n'était malade. J'étais simplement préoccupée pour mes voisins. Et puis en 2004, je suis tombée enceinte. Mon bébé est né à terme avec une malformation. Et il est mort. Et tout ça, ça m'a privée de devenir mère à nouveau.
Ensuite, vous n'avez jamais voulu réessayer d'avoir un enfant ou vous n'avez pas pu ?
Revivre la même chose, c'était hors de question. On m'a volé le droit d'être mère à nouveau. Et puis, j'avais peur d'avoir un enfant avec une malformation. Après ça, je me suis battue avec encore plus de force avec le groupe et je continue aujourd'hui pour que justice soit faite. C'est pour ça qu'on se bat.
Vous vous souvenez des épandages ?
Oui, il y en avait presque tous les jours. Je m'en souviens qu'ils épandaient des pesticides, même quand il y avait du vent. Ils s'en foutaient. Parfois, quand l'avion ou la machine passait, les enfants jouaient juste à côté. Plusieurs fois, avec d'autres membres du groupe, on s'est interposés. Je me souviens d'une fois où je suis sortie en courant pour arrêter la machine. Je me suis arrêtée au bout de 50 mètres parce que je ne pouvais plus respirer. J'avais mal à la tête, c'était terrible. Depuis 2008, les épandages sont interdits et il n'y a plus de soja. Mais le problème n'est pas réglé alors qu'on est en 2016. Malheureusement, des logements ont été construits sur ces terres polluées. Environ 200 familles y vivent. Les autorités affirment qu'elles ont fait des études. Mais si elles en avaient vraiment fait, elles n'auraient jamais permis à des gens de s'installer. Et puis ici, il y a toujours des gens qui tombent malades. Des cas de cancer, des enfants avec des malformations, plein de problèmes de santé. C'est terrible. Chaque jour, on nous rapporte un nouveau cas. Je vous parle de gens jeunes, là, qui ont 30, 40, 50 ans. Pas de personnes âgées de 80 ans. On se demande sans cesse, qui sera le prochain ?
Et partir, vous y avez déjà pensé ?
Oui, plein de fois. Mais c'est trop tard.
Non,
Je n'ai plus le choix. On est déjà contaminés, ma fille et moi. Des enfants âgés de 6 à 14 ans à qui on fait des prélèvements ont des pesticides dans le sang.
Imagine si esos chicos.
Alors vous vous imaginez pour moi.
À une dizaine de kilomètres d'Itusengo Anexo, les habitants d'une autre petite ville, Malvinas Argentinas, luttent eux aussi contre Monsanto. Ils veulent empêcher la construction d'une usine de conditionnement de maïs transgénique. Depuis septembre 2013, ils bloquent l'entrée du terrain. Ils ont construit des petites cabanes en terre et en bois. Et dans ce campement improvisé, ils montent la garde à tour de rôle 24 heures sur 24.
On est là en permanence. On est une centaine de personnes à se relayer. On fait des quarts de 6 heures. Ça fait 3 ans que ça dure et on ne va pas lâcher. Je m'appelle Elisinda Leria, mais mes compagnons de lutte m'appellent
Eli.
Je fais partie de l'Assemblée Malvinas, Lutte pour la vie. J'ai 55 ans et je suis femme au foyer. Je passe plus de temps ici au campement que chez moi.
En face de nous, sur le terrain qui appartient donc à Monsanto, qu'est-ce qu'il y a pour l'instant ?
Ce sont les armatures de l'usine qu'ils ont commencé à construire. Les ouvriers ont travaillé pendant 4 mois et ils ont sacrément bien avancé. Il faut dire qu'ils étaient 600 sur le chantier. Le terrain fait 37 hectares. Monsanto comptait y implanter une usine dans laquelle seraient fabriquées les semences transgéniques. Quand un agriculteur plante des graines de Monsanto, il ne peut pas garder une partie de sa récolte pour la ressemer l'année suivante. Il doit donc toujours en racheter à Monsanto. 8 ans avant de rendre public cet investissement, l'entreprise et l'État y travaillaient déjà. Monsanto a construit une piscine, offert un générateur électrique au service des eaux de la ville, refait des routes. Ils voulaient nous acheter.
Ici, on est au bord de la route nationale. Vous avez installé des banderoles. Qu'est-ce qu'elles disent, ces banderoles ?
Malvinas ne veut pas de Monsanto.
Vous avez donc organisé un campement avec des cabanes en bois, des feux. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça fonctionne ?
Eh bien, ici, c'est le feu pour la cuisine. On prépare à manger ici, à l'extérieur, enfin, quand il ne pleut pas. Et là-bas, c'est la cuisine où l'on stocke la nourriture. Et ça, c'est le tableau sur lequel on note les tours de garde et les téléphones des gens.
Donc vous vous préparez pour un blocus qui va durer encore longtemps.
Et sinon, c'est avancé.
Tant qu'ils ne jetteront pas l'éponge, nous non plus. Maintenant, ils disent que la production de maïs n'est plus suffisante. Mais de l'autre côté, l'entreprise compte tout de même présenter une nouvelle étude d'impact environnemental. C'est difficile de savoir quelles sont leurs véritables intentions. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ils jouent la montre. Ils prennent tout leur temps pour essayer de nous décourager et nous faire partir. Mais cela ne marchera pas. On ne s'en ira pas. On n'a pas peur de Monsanto. J'ai déjà reçu des menaces plusieurs fois. La dernière fois, c'était vendredi dernier. J'ai été menacée de mort. Mais comme mon téléphone fixe n'a pas d'identificateur d'appel, je ne sais pas d'où venait le coup de fil.
Mais votre lutte, elle dérange.
Évidemment qu'elle dérange.
Mais
on n'arrêtera que quand ils arrêteront de nous rendre malades, de polluer notre terre, notre faune et notre flore. Moi, on m'a détecté des pesticides dans le sang en 2007. Aujourd'hui, je pèse 39 kilos. J'ai l'appareil digestif en mauvais état. Je souffre d'emphysème et d'asthme. Je dois prendre 10 médicaments par jour.
Il y a une décision de justice qui interdit à Monsanto de construire son usine. Mais malgré tout, vous êtes là pour bloquer l'entrée de ce terrain. Pourquoi ?
Le problème dans notre pays, c'est que la justice est de leur côté.
Si on s'en va, les travaux reprendront. Les entreprises comme Monsanto arrivent toujours à leur fin. Elles font pression sur la justice, sur l'État, sur le gouvernement. Elles sont toutes puissantes parce qu'elles dominent l'économie de l'Argentine et du monde.
Sostienen la economía del mundo y del país.
De l'agua que toman todos los cordobeses. En Barrio Tusaingó, casi 300 personas afectadas, entre niños, niñas, adultos.
La presión, indiferencia que me quitan los derechos, como balas perdidas, me tiran con desecho. Directo a ideales y a la lucha en el cemento. Directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero. Mandan los fascistas, los políticos presionan con toda su policía. Se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía. Me sumo con mi letra disparando con mi rima. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto.
¡Fuera Monsanto!
Te lo digo, te lo canto.
¡Fuera Monsanto!
Te lo digo, te lo canto.
Un reportage de Marine de la Moissonnière réalisé par François Porcheron. Le commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire a annoncé que les 28 États membres de l'Union européenne se prononceront le 23 juin sur la prolongation ou non de l'autorisation de commercialisation du glyphosate. Ce serait peut-être bien que certains se rendent en Argentine d'ici là. Demain, nous vous ferons découvrir l'association Anciela, un incubateur d'engagement citoyen pour une société plus solidaire et plus écologique située à Lyon, dans le sud-est de la France. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à demain, même planète, même heure.